7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins, l'école à la radio. Avec aujourd'hui un message spécial pour les filles. L'école a fermé ses portes temporairement chez vous, mais il faut s'accrocher. N'oubliez pas le combat des grandes sœurs, des mères, des tantes pour avoir enfin leur place à l'école. 600 millions de jeunes déscolarisés en Afrique. Les filles ne doivent pas payer la facture scolaire. Et pour le retour à l'école, eh bien, on va se faire une promesse, les voisins et les voisines. Aucune chaise vide. Voilà. Aujourd'hui, des activités autour du langage, du vocabulaire, des expressions, des proverbes. Bonjour Sarah Vauquier.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous les auditeurs et auditeuses.
La maîtresse d'école en plein air. Vous avez publié L'école à ciel ouvert aux éditions La Salamandre. C'est dans ce livre d'ailleurs que vous piochez bon nombre de vos activités. Aujourd'hui, vous allez proposer aux enfants d'inventer une langue secrète. C'est vrai ça ?
C'est tout à fait ça, oui. Je vais vous expliquer après comment ça marche.
Parce que c'est vrai aussi que c'est en jouant qu'on apprend. Et à la récréation, un conte éthiopien, ce que disent et redisent les grenouilles. Et puis en dernière partie d'émission, on parle des entreprises sur le continent africain avec le coach Didier Akwété. Il répond à un auditeur à propos d'un secteur sinistré, l'événementiel et les conférences internationales. Vous le savez, tout est à l'arrêt. Alors comment réinventer cette activité à Dakar, à Abidjan ou à Kigali? L'occasion pour vous, les entrepreneurs, quel que soit le secteur dans lequel vous travailler, de nous appeler sur le compte WhatsApp de l'émission 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins pour se parler.
7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, on dit quoi ?
Eh bien, on dit que les enfants ont la parole tous les jours dans l'émission. Racontez-nous, les enfants, ce que vous avez appris dans l'émission pour toute la vie.
Bonjour Madame Emmanuel, je m'appelle Sani Abiboula, je fréquente l'école privée SOS de Kara au Togo. Je fais la classe de CE1, j'ai 7 ans. Maman nous fait écouter moi et mon petit frère à l'école à la radio et moi j'aime bien. Aujourd'hui j'ai pu trouver le carré. Le carré est une figure qui a 4 côtés égaux et 4 angles droits. Au revoir.
Super, bravo Sani. Un message aussi posté de Goma. Elles sont 3 sœurs, 2 jumelles de 8 ans et la grande sœur de 10 ans.
Bonjour voisine Sarah, je suis Nema Chulungu Roser. J'ai aimé ton cours. Ça m'a appris les formes géométriques en jouant. Bye et merci.
Bonjour voisine Sarah, moi c'est Afia Chulungu Rossignol. Grâce à toi, j'ai appris qu'autour de moi, il y a beaucoup de formes géométriques.
Bonjour voisine Sarah, moi c'est Royal Fatouma Chulungu. Je vis à Goma, à l'est de la RDC. Merci pour le cours d'aujourd'hui. C'est amusant. Moi, j'étais dans la maison, dans notre petit salon. Je n'avais pas de bâton, seulement un mètre ruban. Je compte refaire quand j'aurai du matériel pour aussi être chasseur des figures géométriques. Au revoir.
Vive les filles à l'école. Voilà, c'est mon combat aujourd'hui. Bravo, maîtresse Sarah. Vous avez entendu ça, Sarah Vauquier.
Merci beaucoup, les filles.
Et puis, il y a aussi des messages d'auditeurs. Marcel à Kinshasa qui nous dit qu'il a étudié les formes géométriques en deuxième et en troisième primaire. Je pense que c'était il y a déjà un petit moment. Le maître nous demandait d'en fabriquer en bambou et de les suspendre au mur et à la charpente de la salle de classe, y compris l'angle droit, aigu, obtus. Ça, c'est un angle avec une ouverture entre 90 et 180 degrés. J'ai été me rafraîchir la mémoire. C'est pas mal comme idée, hein, Sarah, de faire des figures avec des bambous qu'on attache. Très bonne idée. Mam Penda qui est à Dakar, personnellement j'enregistre l'émission et je refais sous forme de cours et d'exemple pour mon garçon de 8 ans. Voilà, bien sûr que vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur le site RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins et puis sur toutes les plateformes de téléchargement pour les podcasts et sur l'appli RFI Pure Radio. Jean-Paul est à Lomé au Togo, je suis enseignant d'histoire géographie. Franchement, je crois que j'ai besoin de ce cours autant que les enfants. enfants. J'apprends toujours et ça me fait le plus grand bien. Aboubacar est à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, à propos du conte qu'on a diffusé mardi dernier. Il nous dit « J'avoue que l'histoire du jeune Hassani est très drôle. C'était le garçon qui disait toujours « attends » et qui a failli se faire dévorer par les loups à force d'attendre pour rentrer chez lui. Il faut absolument aussi le réécouter tous les contes, bien sûr, tous les jours, du lundi au vendredi. Et à terme, on en fera un podcast. Allez, dans quelques instants, on se met au travail avec Sarah Vauquier.
Milliards de voisins.
L'école à la radio.
Ça y est, c'est bon les enfants, vous êtes bien assis sur une chaise, sur un banc, vous avez une table, vous avez du papier ou une ardoise ou des craies. Pas de matériel spécifique aujourd'hui. Langue, proverbe, expression, c'est quoi les objectifs là de cette émission pour vous, Sarah Vauquier ?
Pour nous, on va s'entraîner à comprendre le fonctionnement de la langue, bien sûr aussi d'enrichir notre vocabulaire et pour surtout pour les 6-7 ans aussi les perceptions sensorielles. On va, après l'émission, construire un langage du corps en mimant des choses qu'on apprend aujourd'hui et puis aussi construire des repères historiques parce qu'on va s'enquêter aussi sur des proverbes, des expressions traditionnelles d'Afrique.
Voilà. Alors, les 8-10 ans, vous pouvez déjà donc préparer du papier, le crayon, la gomme. Et on démarre. Alors, on démarre d'abord tous ensemble, c'est ça ?
C'est ça, ouais, on commence avec les langues secrètes. J'aurais juste une petite remarque encore pour hier, pour les 6-7 ans. Hein, vous avez dû préparer des crayons couleurs, on les a pas utilisés.
Ouais,
ils étaient là pour dessiner vos formes géométriques que vous avez cherchées sur la feuille. Donc vous pouvez toujours faire ça cet après-midi.
Ouais, c'est vrai que parfois on n'a pas toujours le temps de faire tous les exercices qu'on avait prévus, toutes les activités.
Parce que c'est impossible.
Voilà, hein, on est obligé de regarder la pendule, mais bien évidemment vous continuez et vous gardez bien vos formes géométriques. Alors là, on démarre avec tout de suite les langues secrètes.
Oui, c'est moi qui a préparé quelque chose. J'ai devant moi plusieurs objets que je vais vous nommer tout à l'heure. Et pour décoder cette langue secrète, vous devriez mémoriser la première lettre de chaque élément. Et puis après, enchaîner toutes ces premières lettres. Ça va vous donner un nom de mot codé. Vous êtes prêts? Les oreilles bien ouvertes? Donc, on commence avec des objets que j'ai trouvés dans mon salon. J'ai devant moi un feutre, un étui et un livre avec le titre Ushuaïa. Feutre, étui, Ushuaïa.
Donc,
si vous prenez la première lettre de chaque mot, ça vous donne quoi mot,
le feutre, le F. L'étui, c'est un étui pour ranger des lunettes, hein, c'est ça.
Même pas pour ranger des crayons, des crayons couleurs, des feutres et
ça
tout ça.
Ça commence par un E, donc j'ai le F, j'ai le E. Et après, vous avez dit Ushuaïa, c'est le titre du livre, donc c'est un U.
Donc, ah oui, vous avez deviné.
J'ai le F, j'ai le E et j'ai le U. Et comme par miracle, Sarah, vous les avez mis dans le bon ordre. Et
ça
donc, ça nous donne le mot feu.
Ok, très bien. Je les mets toujours dans le bon ordre, sinon ça va être très difficile. Faisons un deuxième. Cette fois-ci, j'ai cherché les éléments dans la forêt à côté de nous. J'ai devant moi, écoutez bien, une fougère.
Oui, donc c'est une plante. Hein,
c'est une plante.
Qui commence par un
liane.
F.
Une liane. Vous connaissez, je crois.
Une liane.
J'ai un tout petit arbre. Il est dans un pot parce que je vais le remettre dans la forêt après. J'ai une mousse et encore une mousse. Et à la fin, une feuille d'érable.
Alors, normalement, il faut que vous notiez les lettres. La première lettre de chaque mot. Vous notez pas les mots, hein, bien sûr.
Vous mémoriez, les mots mémorisés dans votre tête.
Exactement.
Fougère, liane, arbre, mousse, érable.
Donc, moi,
ça vous donne quel mot codé ?
J'ai noté le F, le L, le A, le M, le M et encore le E pour érable. Donc, ça nous donne flamme avec deux M.
On a feu et flamme. Après l'émission, vous pouvez coder des mots vous-même de cette manière. Les parents, vous pouvez d'abord aider les enfants à coder des mots. Donc, premièrement, imaginez un mot codé, puis, deuxièmement, allez chercher dans les environs une chose pour chaque lettre qui commence avec cette lettre. Mettez votre trouvaille après, un à côté de l'autre, dans le bon ordre, puis laissez quelqu'un de votre famille deviner votre mot codé. Et ouais. Puis, bien sûr, envoyez-nous les photos de vos mots codés.
Alors évidemment, il faut faire attention parce que moi, j'ai pris les premiers objets qui étaient sur la table du studio de RFI, mais c'est pas de chance. Mouchoir, stylo, téléphone, papier. Il y a que des consonnes.
M-S-T-T-P.
J'ai beau les changer dans tous les sens, c'est pas possible. Il faut donc aussi des mots qui commencent par des voyelles pour pouvoir faire des mots et ensuite une langue.
U, et apparemment U, c'est difficile en français. Donc, vous avez aussi le droit de faire un joker par mot. Par exemple, si vous ne trouvez rien qui commence avec un U, formez tout simplement cette lettre avec des éléments que vous trouvez aux alentours. Et pour les enfants, si cet exercice de mots, c'est trop facile, essayez d'écrire toute une phrase dans la langue secrète. Si vous faites des phrases, faites attention à laisser toujours un espace entre les mots.
Oula, mais c'est très très compliqué toute une phrase.
Toute une phrase, ouais, ça peut faire 5 mots, 7 mots, 8 mots.
Ah oui. Vous faites ça avec vos élèves, Sarah ?
Moi, je fais ça. Parfois, je fais même une chasse au trésor, par exemple. Je leur code en langue secrète. Regardez dans le trou du pic. Et après, ils vont à l'arbre, ils vont aller chercher dans la vieille maison du pic et j'ai caché quelque chose. Donc, ça, c'est possible aussi de réaliser
donc,
chez soi.
Ça veut dire que chaque lettre de cette phrase, dans cette langue secrète, chaque lettre correspond à la première lettre d'un objet. On est bien d'accord.
Exactement ça. Il faudra un peu de place pour écrire toute une phrase entière. Et puis, bien sûr, vous pouvez tester ça dans d'autres langues que le français.
On va continuer maintenant, Sarah. Je pense que les enfants ont bien compris comment on pouvait fabriquer cette langue, ce code, finalement. On va continuer avec un exercice, toujours pour les 6-7 ans.
Oui, maintenant, pour les 6-7 ans et les 8-10 ans, entre-temps, vous pouvez déjà essayer de trouver un proverbe ou une expression qui contient les mots « feu » et ou « flamme ».
Ah, alors notez bien, les 8-10 ans, ils ont le droit d'aller sur Internet ou pas, Sarah ?
S'ils veulent, mais sinon il faut demander aux alentours, peut-être qu'il y a maman, papa qui est proche, chercher.
Voilà. Ou dans le quartier, les voisins.
Un proverbe, une expression qui commence ou qui contient les mots feu ou flamme.
Donc, un proverbe ou une expression qui contient les mots feu ou flamme. Voilà, les grands, vous sortez de la maison, vous demandez autour de vous, et puis si vraiment personne ne connaît, vous allez voir sur Internet. Et pendant ce temps, encore une activité pour les plus petits.
Et leurs parents, bien sûr. Vous pouvez inventer maintenant ensemble des phrases à la queue-leu-leu avec les éléments que vous avez utilisés pour former votre mot. Donc, premièrement, vous pouvez explorer chaque élément avec tous vos sens. Comment ça sent ? Est-ce que ça a une odeur ? C'est comment quand on le touche ? Et ça a l'air comment quand on le regarde ? Est-ce que ça fait du bruit ? Et peut-être, si vous avez quelque chose de mangeable, comment c'est quand on croque dedans ?
Alors, attendez, Sarah, pour qu'on soit sûr d'avoir bien compris, on cherche des objets qui pourraient faire appel à nos cinq sens, c'est ça, l'odorat ou toucher ?
Vous faites d'abord l'exercice de la langue secrète, vous avez peut-être écrit « flamme » avec d'autres éléments en langue secrète, et puis après, vous allez explorer ces éléments que vous avez utilisés pour former ce mot « flamme ». Avec tous les sens. Et puis après, on va les décrire. Par exemple, papa commence la fougère de flamme. Elle dit...
Ah, on vous entend plus, Sarah. Qu'est-ce qui se passe ?
On vous entend...
Ah
ça
oui,
marche.
Ça y est. Oui, une petite coupure.
Revenue. Donc, pour former des phrases à la queue-leu-leu, ouais. Papa commence, il dit la fougère est vert clair.
La fougère est vert clair, oui.
Il prend la liane. Ça, c'était le deuxième objet que j'avais dans le mot flamme. La liane, elle dit la fougère, elle est vert clair, la liane, elle est cassante. La maman continue avec le troisième élément. La fougère est vert clair, la liane est cassante, l'arbre sont la menthe, etc. Donc vous voyez, ces phrases, elles deviennent de plus en plus longues, jusqu'à ce que vous avez utilisé tous les éléments que vous avez trouvés aux alentours pour former le mot « flamme ».
C'est ça. Et on reprend donc les mots qui ont servi, donc dont les premières lettres ont été utilisées pour former le mot « flamme », en effet. L'idée, c'est vraiment aussi d'utiliser le vocabulaire autour du toucher, autour de l'odorat, autour des couleurs, de tout ça. C'est ça pour apprendre à s'exprimer, Sarah ?
C'est ça, c'est saisir les qualités d'un objet, d'un élément de tous les jours qu'on a, et puis s'exercer à le décrire en enrichissant son vocabulaire.
Et ça, on peut le faire avec des objets de tous les jours, hein.
Bien sûr.
Le téléphone à côté de moi, on peut le décrire, on peut dire beaucoup de choses sur un simple téléphone, par exemple.
C'est ça, il ne faut peut-être pas croquer dedans, mais
non.
Pour le reste, oui.
Évidemment, c'est bien de prendre des choses qui se mangent, vous le disiez, c'est un bon exemple pour travailler sur les sensations que l'on a quand on a cet aliment dans la bouche. Forcément, on va se creuser la tête pour trouver des adjectifs. Oui, ça, les adjectifs, on en parlera d'ailleurs la semaine prochaine. Alors, les 8-10 ans, est-ce que depuis que Sarah a donné la consigne, vous avez eu le temps de trouver des proverbes ou des expressions qu'on utilise souvent chez vous ? Ça peut être dans votre langue maternelle d'ailleurs, hein. Après, on peut transcrire, bien évidemment.
Ben, j'espère que vous avez trouvé au moins une expression, un proverbe. Et j'espère aussi que vous êtes tout feu, tout flamme pour continuer l'école à la radio avec moi.
Alors,
oui,
tout feu, tout flamme, ça c'est ce que vous avez choisi,
feu,
avec
flamme.
Le mot feu et le mot flamme.
Voilà, ça c'est une possibilité de proverbe, d'expression qu'on peut former avec ces deux mots que vous avez décodés juste avant.
Ouais.
Peut-être que vous en avez trouvé d'autres, hein. Mettre la main dans le feu, jouer avec le feu, etc. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que cela veut dire, à votre avis, être tout feu, tout flamme ? Est-ce
Alors,
que vous avez une idée,
c'est une expression,
Emmanuel ?
Je ne sais pas si on emploie cette expression, d'ailleurs, dans tous les pays francophones.
Alors, je ne sais pas non plus, hein.
Eh ben, pour moi, ça signifie l'enthousiasme, hein. C'est un peu ce côté un peu fonceur, là, tout feu, tout flamme. On est enthousiaste, on se jette dans l'action. Je ne sais pas si d'ailleurs dans votre langue maternelle, Sarah, en suisse allemand, est-ce qu'il y a une expression pour signifier comme ça cet enthousiasme ?
Oui, c'est presque la même. Feuer und Flamme sein.
Ah,
on
bah oui.
Dit en allemand, donc c'est être feu et flamme.
Hein, ah oui,
si
donc,
je traduis
c'est ça.
Littéralement.
On utilise la même image donc dans votre langue, c'est intéressant ça.
Exactement. Et puis moi, je me suis renseignée un peu sur l'origine aussi de cette expression, d'où elle vient. Et puis, j'ai constaté que depuis le 9e siècle, chez nous, on utilise fréquemment ce mot « feu » pour exprimer une émotion positive très forte. Probablement, ça c'est un peu mon explication de la chose, parce que le feu, ça apporte beaucoup de choses positives à l'humain.
Oui.
La chaleur, la nourriture qu'on peut cuire dessus, la protection contre les animaux, hein. La lumière pendant la nuit, et flamme, c'est un peu pareil. Donc l'expression « tout feu, tout flamme », comme vous avez dit, Emmanuel, exprime presque une double passion pour quelque chose,
mm-hmm.
quelque chose qui vous rend très, très enthousiaste.
Et, oui. Et l'association « feu » et « émotion positive », je ne savais pas que c'était si ancien dans notre langue, en effet, depuis le 9e siècle. Et vous, dans quelle situation vous utilisez cette expression, Sarah ?
Ben, quelque chose me passionne beaucoup. Hein. Et comme écrire ces émissions radio pour vous, les enfants, les parents, les auditeurs, ou pour jouer de la musique. Et pour vous, Emmanuel, qu'est-ce qui vous rend très enthousiaste ?
Ah ben moi, j'aime bien venir à l'antenne en direct. Hein, voilà. Je suis tout feu, tout flamme quand j'arrive à l'école à la radio. Et puis manger du chocolat aussi, éventuellement.
Ah oui, ok. Ça peut.
Sarah, on va proposer maintenant aux enfants de 8-10 ans, ça va être plus compliqué, parce qu'il va falloir faire vraiment appel à son imagination, vous proposer de mimer des proverbes.
C'est ça, donc mimer, vraiment, ça veut dire jouer sans parler, et mimer, vous pouvez faire après l'émission, mais je vais vous donner déjà maintenant un autre proverbe. J'ai cherché toute une série de proverbes africains que je connais aussi dans mon pays, la Suisse, je connais en allemand normalement, et votre tâche, ça serait déjà de réfléchir qu'est-ce que ce proverbe veut nous dire et qu'est-ce que ça signifie dans mon quotidien. Alors, j'ai trouvé un que je trouve très, très caractéristique pour mon travail que je fais. Le proverbe est « Dans la forêt, quand les branches des arbres se querellent, les racines s'embrassent.
»
Qu'est-ce que ce proverbe pourrait signifier ?
Dans la forêt, quand les branches des arbres se querellent, les racines s'embrassent. Ah, c'est un beau proverbe, je ne connaissais pas celui-là.
Oui.
Alors réfléchissez, les enfants, vous imaginez les arbres dans la forêt, les branches des arbres qui s'agitent pour se quereller, pour se disputer, et pendant ce temps, sous la terre, les racines qui s'embrassent, donc qui ne se disputent pas du tout, au contraire, elles sont ensemble, comme on dit chez
c'est
nous.
Ça.
Sur RFI, on dit toujours qu'on est ensemble, malgré la distance.
C'est exactement la signification, donc ça veut dire que, en fait, finalement, nous avons tous la même origine, nous avons tous les mêmes racines, même si on se dispute, même si parfois c'est difficile ou on se croit différent ou supérieur à un autre, on est tous liés. Et puis je vous dis juste, dans mon quotidien, ça signifie beaucoup de choses, parce que bon, on est 7 milliards de voisins sur cette planète, même si c'est pas toujours facile de vivre ensemble sur une seule planète, on est tous liés. Entre nous les humains, mais aussi avec les autres vivants et avec le non-vivant. Donc on fait partie de la nature et elle fait partie de nous. Et puis avec mon travail de l'école à ciel ouvert, ça c'est un des grands objectifs, j'aimerais faire vivre aux enfants ce lien entre nous et entre ceux qui nous entourent.
Oui, notamment les arbres, d'ailleurs.
Notamment les arbres, ouais, pour apprendre à respecter le vivant, se respecter aussi soi-même ainsi et connaître sa place dans le monde, voilà.
J'ai remarqué que les proverbes, c'est vrai que souvent sont composés à partir d'allusions à la nature, à les animaux. Donc pour les enfants, c'est facile aussi de comprendre le sens de ces proverbes, d'en discuter. Vous avez un autre proverbe à nous proposer, Sarah ?
Bah, si on a le temps, hein,
ouais,
si on a le temps, je vais faire ça. Donc un autre qu'on utilise très très souvent en allemand, c'est « L'herbe ne pousse pas plus vite quand on tire dessus ».
L'herbe ne pousse pas plus vite quand on lui tire dessus. Ça donne quoi en allemand, par curiosité ?
Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht, en bon allemand.
L'herbe ne pousse pas plus vite quand on lui tire dessus. Est-ce qu'on peut tirer sur de l'herbe ? Quand on l'arrache, sous-entendu.
Ben, c'est exactement ça, on l'arrache. Donc qu'est-ce que ce proverbe veut nous dire ?
Alors, l'herbe ne pousse pas plus vite quand on lui tire dessus. Là déjà, il faut peut-être pas se précipiter pour faire des choses qu'on pourrait regretter, hein.
C'est ça. Ça veut dire que certaines choses ont besoin de temps pour grandir. Elles ne se laissent pas réaliser plus rapidement quand on les force. Et moi, je parle beaucoup de ça quand je parle du développement de l'enfant, hein, de vous les enfants. Et quand on vous force de faire des choses et vous êtes juste pas prêts. C'est encore trop difficile, ben, ça marche pas. Bien sûr que ça marche pas. Donc, ben, il faut plutôt arroser bien l'herbe pour que ça pousse bien que de lui tirer dessus.
Voilà. Et rester calmement à attendre que ça pousse. Moi, j'avais trouvé aussi un proverbe que j'aime bien. Avec feu et flamme, puisque c'est ça que vous avez demandé aux enfants, hein, un proverbe
oui,
ou une expression. L'amour est un feu qui vivifie et non une flamme qui dévore. C'est bien parce que ça fait une différence entre feu et flamme.
Tout à fait, ouais, très joli.
Ça...
J'en ai trouvé un qui m'a fait marrer, qui
allez-y.
Va un peu dans le sens de l'herbe, qui ne pousse pas plus vite. En Europe, vous avez la montre. Nous,
ouais.
Nous avons le temps.
Ah, ça c'est bien, c'est vrai qu'elle est très connue cette expression, elle est bien. En Europe, vous avez la montre, nous avons le temps, sous-entendu. On a beaucoup plus que la montre, on a l'éternité. Surtout que maintenant,
ça devient philosophique cette question aujourd'hui.
Voilà, alors comme la planète est à l'arrêt, on a beaucoup de temps. Je ne sais pas si c'est un bon signe, mais enfin bon, en tout cas, il faut peut-être prendre le côté le moins négatif. Pour rester sur ces histoires d'expressions et de proverbes, comment on peut prolonger les activités, Sarah ?
Donc voilà, ça pour les 8-10 ans, ça serait votre travail d'aujourd'hui. Après l'émission, vous pouvez aller faire une enquête. Vous pouvez enquêter vos parents, aussi vos grands-parents, s'ils habitent chez vous. Quels proverbes et expressions en lien avec la nature connaissent-ils ? Notez au moins 3 expressions, 3 proverbes.
Mmh.
Et c'est les 2 questions qu'on s'est posées tout à l'heure qui m'intéressent. Donc, notez pour chaque expression, qu'est-ce qu'elle signifie ? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'elle signifie pour moi dans ma vie quotidienne ? Et puis, pour faire tout ça un peu plus rigolo, ben, une fois que vous avez vos au moins 3, on peut faire un jeu de mime. Donc, ben, il faut jouer à plusieurs. Quelqu'un doit tirer une petite carte avec un proverbe, une expression dessus. La personne va mimer, donc jouer sans parler, sans dire des mots, cette expression, et les autres, ils doivent deviner. de quoi il s'agit.
Ouais, mais alors ça, c'est quand même très difficile. Hein.
Ça va. Testé avec des très jeunes enfants, ça marche très très bien. Mais il faut en amont travailler un peu les proverbes et les expressions. Parce que on ne les connaît plus, on ne les connaît pas.
Mais alors, par exemple, si on reprend le proverbe « l'herbe ne pousse pas plus vite quand on lui tire dessus », comment vous feriez pour mimer ce proverbe? Donc, c'est-à-dire faire des gestes, décrire sans parler.
Décrire, on peut aussi aller dehors dans la prairie ou montrer le pré, montrer l'herbe, faire des gestes. Et puis, ceux qui regardent, qui connaissent pas l'expression qu'on joue, ils doivent essayer de deviner.
Alors, c'est ça, on montre l'herbe, on montre qu'on arrache l'herbe, on la montre en train de pousser, et puis on fait peut-être un signe négatif. C'est pas évident. Alors, pour la forêt, quand les branches des arbres se querellent, les racines s'embrassent, alors
il faut
là,
presque être à deux pour jouer ça.
Ouais,
hein.
Exactement. Hein. Il y en a un qui fait effectivement l'arbre, l'autre qui fait les racines, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est vraiment une belle initiative que de mimer, parce que quand on cherche, quand on devine, et une fois qu'on a trouvé, ça reste évidemment gravé dans notre cerveau ensuite, cette expression.
C'est ça. Puis la personne qui devine, juste deviner, ça ne suffit pas non plus. Elle doit aussi dire, d'après elle, ce que ce proverbe ou cette expression signifie, et puis donner un exemple de sa vie quotidienne. Alors, qu'est-ce qu'elle a vécu déjà comme situation dans la forêt, quand les branches des arbres se querellent, les racines s'embrassent. Donc, donner vraiment un exemple vécu de soi-même.
Ouais. Et puis, vous pouvez aussi chercher des exemples dans votre propre vie pour « l'herbe ne pousse pas plus vite quand on lui tire dessus ». Merci beaucoup Sarah Wauquiez. On va vous retrouver demain vendredi, dernier jour de la semaine, hein, pas de l'école à la radio, mais de la semaine.
Ah non, on continue. Hein,
voilà, et donnez-nous un peu le programme demain. Vous revenez avec des maths, c'est ça?
On va revenir avec des maths. On va faire une petite suite sur les formes géométriques, mais cette fois-ci en 3D. Et puis, on va travailler aussi sur les suites.
Mmh. Alors, forme géométrique en trois dimensions, ça veut dire que, par exemple, on pourrait reprendre l'idée de notre ami auditeur avec, par exemple, des bambous et on pourrait,
Exactement,
on pourrait les mettre en trois dimensions, hein, pour construire des formes. Donc, ça veut dire des cubes, par exemple, hein, des sphères
pyramides.
Pour les ronds, des pyramides. D'accord. Et il faut du matériel, préparer des choses en particulier.
Oui, donc comme toujours, une feuille, un crayon, une gomme pour tout le monde. Et puis en plus, vous avez besoin d'un sac ou d'une boîte avec 20 fois 6 objets dedans. Donc il faut choisir 6 objets différents et y mettre 20 de chacun.
Oula.
Des haricots, des cailloux, des petits bâtons, ce que vous voulez, parce qu'on va former nous-mêmes des suites avec ces objets que vous avez dans votre sac.
Ouais. Alors des crayons, à mon avis, ça va être difficile, parce que
si je calcule bien,
20 fois 6,
20
les enfants...
20 fois 6, 120 hein, objets
exactement.
Dans un sac ou dans une boîte.
Pour faire 20 fois 6, vous faites 2 fois 6, hein. On est d'accord, ça fait 12, et vous rajoutez un 0, puisque c'était 20. Ça fait 120.
Bah,
alors, à mon avis, il faudra se rabattre sur le riz ou les grains de maïs. Hein,
c'est ça.
Parce que 120 objets qu'on va mettre dans un sac en plus. Alors, vous avez le temps de compter hein, d'ici demain. Vous faites bien vos tas, puisque ça, tous les enseignants vous le conseillent, surtout pour les plus petits, pour bien former, construire les nombres. Hein, c'est l'expression des enseignants. Vous faites des tas de 10. Et donc des tas de 10, il faudra combien de tas de 10 pour en avoir 120, si on prend dans ce sens-là, ou alors on fait des tas de 20 comme vous avez demandé, Sarah. Vous avez demandé
c'est
des
ça,
tas de 20.
Ça, c'est possible aussi.
Alors vous comptez un tas de 20 grains de riz, 20 grains de maïs, ce que vous voulez, si possible, à mon avis, pas des objets trop encombrants, pour pouvoir ensuite les ranger dans le sac, donc un sac ou une boîte avec 20 fois 6 petits objets dedans. Voilà. Et dans quelques instants, on va se retrouver pour un conte éthiopien. Je vous dis merci beaucoup Sarah Wauquiez. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous. Je vous souhaite d'être tout feu, tout flamme pour la suite des exercices.
Ça, il n'y a pas de problème. On est tous tout feu, tout flamme et on est tous ensemble comme les racines des arbres. Dans quelques instants, un conte éthiopien. Ça sera juste après Black Sun.
Watch out, it's here, the monsters feed us, Tom Jones, I'll eat you. Watch out, these hiding.
shout, he's gonna get you a million feet. They'll be marching on. The smoke is thick, your clock is thick, and the talk will tick, will alarm you. Falling ground, no dams, no stones, and engraved in gold. He's gonna get you a billion feet. They'll be marching on.
Chez 7 milliards de voisins, l'école à la radio. C'est Irma, une voisine née à Douala. C'est l'occasion de faire un coucou à tous nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent au Cameroun. Et bien sûr, vous le savez, les voisins et les voisines, pour l'école à la radio, le compte WhatsApp est à votre disposition. Vous pouvez faire des remarques, des suggestions, partager aussi vos idées pour faire des activités avec les enfants pour l'école à la radio. Et puis aussi, nous envoyer vos témoignages 33 1 84 22 71 71. Et tout le monde a le droit de s'exprimer, quelles que soient les générations. Et tout de suite, une histoire racontée avec la voisine Héloïse Oria. Ce que disent et redisent les grenouilles, conte éthiopien édité par Présence Africaine.
Je vais inventer une histoire.
Il était une fois
ce que disent et redisent les grenouilles. Un conte de Constantin Kaïteris. En Éthiopie, comme partout ailleurs dans le monde où il y a de l'eau douce et des mares, il y a des grenouilles. Des grenouilles vertes qui sautent comme des ressorts et qui coassent toute la nuit. Mais ici, quand on passe le long d'une mare, d'un étang ou d'un lac, on ne les entend pas faire « ra, ra », ni même « quax, quax ». Non. En pays Amara, en tout cas, les gens entendent « aïtal, aïtal ». Or, en amharique, « aïtal », cela a un sens. Cela veut dire « que cela n'arrive pas » ou « que cette chose n'arrive pas ». Les grenouilles parlent donc la langue du pays ? Eh bien non, pas vraiment. Ou disons « plus vraiment, car elles ne disent que cela, surtout la nuit. Aïtal, aïtal. Et pourquoi restent-elles cachées dans les herbes ou accroupies sur les feuilles de nénuphar à répéter toujours la même chose? Qu'est-ce qui ne doit pas arriver? Vous ne le savez pas? Non, vous ne le savez pas, mais tous les paysans des hauts plateaux le savent. Et voici l'histoire qu'ils racontent. Un jour, il y a longtemps, au temps où les grenouilles parlaient, des grenouilles vivaient en paix dans une mare près d'un village. Elles vivaient en paix et personne ne les importunait, car ni les hommes ni aucun animal sauvage ne pensait à les manger. Elles n'étaient la proie de personne. Ce jour-là donc, qui aurait dû être un jour comme tous les autres jours et qui avait commencé comme tous les autres jours, elle se prélassait au soleil en gobant des mouches. Tout à coup, elles remarquèrent une fumée épaisse qui montait au-dessus du village et bientôt, elles aperçurent des flammes qui léchaient les murs d'une maison. Visiblement, cette maison avait pris feu et les flammes s'attaquaient au toit de chaume.
« Regardez !»
s'écria soudain une des grenouilles, l'air affolée.
« Le feu se communique à d'autres maisons! Mon Dieu! Mon Dieu !»
Sa voisine, qui partageait la même feuille de nénuphar, lui dit
« Et alors? Ce n'est pas une raison pour te mettre dans tous tes états et t'affoler comme ça ?»«
Mais !»
dit la première grenouille.
« Tu ne vois donc pas que tout le village va prendre feu avec le vent qu'il fait ?»«
Bon, quelques maisons des hommes vont peut-être brûler, mais calme-toi. Cela ne nous regarde pas. Nous sommes bien à l'abri ici, dans notre mare. Le feu ne peut pas arriver jusqu'à nous. »
La première grenouille regarda sa voisine et lui répondit
« À l'abri, oui, pour le moment, mais tu ne comprends pas que les hommes vont vouloir éteindre l'incendie !»«
Sans doute, mais en quoi est-ce que cela nous regarde ?»
répondit l'autre.
« Notre ami a raison !»
dit une troisième grenouille qui se mêla de la conversation car elle venait à son tour de comprendre.
« Dans quelques instants, les gens du village vont ramasser tout ce qu'ils ont de cruches, de pots et de calebasses, et ils vont se précipiter sur notre mare pour y puiser de l'eau afin d'éteindre cet incendie. Alors, soit ils l'assécheront car ils ont besoin de beaucoup d'eau et nous mourrons de sécheresse, soit ils nous puiseront avec l'eau dans leur récipient et nous jetterons nous aussi sur les flammes où nous aurons le temps de griller. Mon Dieu, dans tous les cas, nous sommes perdus !»
Oui, elles ont raison, elles ont raison!
Se mirent à crier toutes les grenouilles très agitées.
Que Dieu nous protège!
Que Dieu nous protège!
Et pour que cette horrible chose n'arrive pas, elles se mirent à crier toutes en chœur.
Aïtal, aïtal, aïtal! Que cela n'arrive pas! Que cela n'arrive pas!
Et le cri s'éleva au-dessus de la mare, au-dessus du village, fut repris même par des mares voisines.
Aïtal, aïtal, aïtal!
Heureusement, ce jour-là fut le premier de la saison des pluies. Un violent orage s'abattit soudain sur le village et éteignit l'incendie à la grande joie des vertes sauteuses. Mais les grenouilles avaient été tellement frappées d'horreur et choquées à l'idée de ce qui avait failli leur arriver, qu'à dater de ce jour, elles cessèrent de parler et que depuis, toutes les grenouilles ne savent plus que répéter
« Aïtal, aïtal, que cela n'arrive pas !»
Mise en onde Romain Dubrac avec la voix d'Héloïse Auria, un conte éthiopien édité par Présence Africaine à réécouter, évidemment sans modération, en réécoutant l'émission sur le site rfi.fr.
Sept milliards de voisins, on est ensemble.
Allez, retour dans le monde réel avec la crise du Covid et les entrepreneurs sur le continent africain qui s'interrogent. Je vous rappelle que la Banque mondiale prévoit que le continent entrera en récession pour la première fois depuis 25 ans à cause de l'épidémie. On est en ligne à Abidjan avec Didier Akwété. Bonjour Didier.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes président d'Afrique Search et en ces temps de crise, vous répondez régulièrement à des questions très concrètes d'auditeurs. Aujourd'hui, écoutez le message de Sébastien. Il est à Kigali, au Rwanda.
Bonjour aux 7 milliards de voisins, je m'appelle Sébastien, je vous appelle de Kigali. Je travaille dans le secteur de la communication événementielle pour l'organisation de conférences et de forums internationaux sur le continent africain. J'aimerais avoir les conseils de Didier Akwate pour savoir comment il agirait dans la situation actuelle. Depuis le début de la crise Covid-19, en Afrique, nous avons dû annuler toutes les conférences que nous avions prévues d'organiser, avec bien entendu des frais déjà engagés pour les réservations de lieux, d'hôtels ou encore de diverses prestations. L'année 2020 sera une page blanche, pour ne pas dire noire, dans notre secteur d'activité. Nous n'attendons aucune reprise d'ici 2021 et elle sera lente. Alors, si vous étiez un dirigeant d'une agence de communication événementielle, quels seraient vos conseils que vous souhaiteriez partager face à cette situation délicate dans laquelle nous sommes? Quelle stratégie envisageriez-vous à court terme ou à moyen terme? Comment nous devrions repenser notre activité? Merci bien à vous.
Alors c'est vrai que le secteur de l'événementiel est complètement sinistré et avec toute une cascade derrière de sous-traitants de différents métiers, évidemment l'hôtellerie, mais pas seulement, Didier Akwate.
Oui, effectivement, Emmanuel, vraiment c'est une année particulièrement difficile pour certains de secteurs comme l'événementiel en effet, le tourisme, l'aérien, la restauration et bien d'autres. Et comme nous essayons de le faire parfois dans l'émission, ça nous a amené à réfléchir à des business models différents pour ces secteurs pendant la crise et puis surtout après la crise. Hein. Cette crise est quand même inédite parce que c'est les premières fois que personne ne peut bouger. Donc ça rend l'équation encore un peu plus compliquée.
Et alors je sais qu'en ce moment vous relisez vos manuels d'économie. Alors justement, comment garder la tête sous l'eau et exister après la crise?
Oui, malheureusement, les manuels d'économie n'en parlent pas beaucoup, donc il faut qu'on réfléchisse un peu tous pour trouver des idées. Alors, en fait, la question de Sébastien, il y a une question de survie, hein, d'inactivité pendant la période de crise et après la crise. Et en réfléchissant un petit peu, je me suis dit, il y a peut-être trois pistes qu'on pourrait creuser. La première, j'ai une approche toujours un peu marketing où je réfléchis toujours en disant, je vais segmenter mon marché. Donc quand je segmente le marché de l'événementiel, on va dire il y a les événements du type qu'on appelle B2B, c'est-à-dire professionnel, hein, des gens qui veulent faire des affaires ensemble, et puis entre professionnels et particuliers, genre le salon automobile, etc., ou le salon du smartphone, mais qui touchent les professionnels. Mais Sébastien, je vais peut-être essayer de me concentrer sur la partie ce qu'on appelle B2B, donc professionnel à professionnel. Ces agences ont une chance incroyable, c'est qu'ils ont des bases de données. C'est-à-dire, ils réunissent chaque année des milliers de personnes qui ont des intérêts individuels, qui cherchent des choses en particulier, et ils savent ce que les gens viennent chercher.
Oui, c'est vraiment le principe des conférences et des grandes réunions, en effet.
C'est ça, avec parfois des milliers de personnes. Donc, Sébastien a une mine d'or, il a une base de données incroyable. Donc, ça veut dire qu'il peut utiliser l'intelligence artificielle pour savoir ce que ses participants ou ses clients recherchent en temps normal et peuvent rechercher en temps de crise. Donc, pour simplifier, je me dis, Sébastien, dans son business, peut devenir l'équivalent, on va dire, d'une plateforme qui s'appelle Tinder, je crois que vous connaissez.
Une plateforme de rencontre, en effet.
Exactement. Donc, Sébastien peut devenir le Tinder du business parce qu'en fait, il sait ce que ses clients recherchent, ses participants recherchent, et donc créer autour de son business une vraie plateforme de deal making. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent dans les rencontres? Ils veulent faire des deals. Ils veulent faire des affaires, rencontrer des gens qu'ils ne rencontrent pas habituellement et en un seul endroit rencontrer 100, 10, 15, 20, 200 personnes.
C'est ça. Oui, mais alors s'ils ne se rencontrent plus, parce que... Oui, mais jusqu'à maintenant, quand même, les gens, s'ils faisaient le déplacement, ça coûtait cher. S'ils faisaient le déplacement, c'est bien qu'il y avait un intérêt à être ensemble, à se voir, à se parler, à se voir en chair et en os.
Eh bien, 50% de ces déplacements se rendent compte avec le Covid que ça ne servait à rien.
Ah bon?
Et quand vous y allez en plus...
Ah bon, donc vous n'allez plus remonter dans l'avion alors, Didier Akwate?
En tout cas, beaucoup moins. Il y a une série d'événements auxquels je ne participe plus parce que je me rends compte que c'est vraiment inutile. C'est vraiment histoire de se rencontrer. Et en fait, le temps qu'on perd en billets d'avion, les hôtels, les aéroports, etc., on se rend compte que finalement, si on a cette plateforme de B2B qui nous permet d'aller beaucoup plus vite... Eh ben, on irait éventuellement à ces rencontres simplement pour closer, c'est-à-dire pour finaliser des deals, parce qu'en amont, on aura eu le temps, l'occasion de discuter, d'avoir ciblé ses besoins. Donc, le Tinder du business peut être une activité, et donc Sébastien devient un deal-maker et génère des revenus à partir des transactions, des deals qu'il facilite entre ses participants et cette cible, et donc l'intelligence artificielle devient un business à part entière pour Sébastien. La deuxième réflexion que je me fais, effectivement, c'est qu'on voit bien que l'utilisation de ces plateformes digitales, la digitalisation des événements, qui n'est pas une nouvelle, mais qui aujourd'hui est vraiment dans l'air du temps, Sébastien peut devenir un prestataire de business purement d'événements digitaux. C'est-à-dire une offre clé en main où il montre de toutes pièces ses événements en ligne pour ses clients, pour des prestataires qui jusqu'à présent n'y pensaient pas, ou en complément d'événements physiques après la crise, pour ses clients. Donc, une offre clé en main d'événements digitaux pour ses clients, où vous avez vu là, une plateforme comme Zoom qui, avec 10 millions d'utilisateurs en décembre, est passée à plus de 200 millions en 3 mois. Donc, ça veut dire que
parce que l'outil technologique est très au point maintenant, finalement.
De plus en plus. Moi-même, je ne fais que du Zoom par-ci, des WhatsApp calls par-ci et là. Et donc, tout le monde commence à s'y faire. Et donc, offrir un service intégré d'événements en ligne peut être une réponse également pour le business de Sébastien. Et puis, enfin, je réfléchis en disant, mais en réalité, quand on voit l'évolution d'un certain nombre de business comme l'industrie cinématographique, je me suis dit Netflix. Netflix, c'est génial. Netflix, en gros, c'est quoi ? C'est qu'on met à disposition du consommateur ou du professionnel une offre à tout moment qu'il peut consulter, qu'il peut utiliser quel que soit l'endroit. Et donc, Sébastien pourrait tout à fait devenir le Netflix de l'événement où il agrège en ligne tous les événements qui ont lieu sur cette planète, et que ce soit en ligne, soit physique, et du coup permettre à ceux qui le veulent, quand ils sont inscrits sur cette plateforme, de pouvoir rentrer dans les salles de conférence à tout moment, de pouvoir revisionner, de pouvoir créer du B2B, etc. Et donc, comment il réinvente un peu son business autour de la base d'informations qu'il a, qui est une richesse incroyable que beaucoup de gens recherchent. Donc, bon, ce sont des pistes...
Entrer dans une salle de conférence à partir de son salon en deux clics, effectivement, ça mérite de retenir la proposition. Mais qu'est-ce que vous faites des événements de type rencontre un peu festive, un peu où il y a un peu de l'émotion qui entre en jeu?
Alors, c'est vraiment ce qui est un peu plus difficile. Je me disais, effectivement, ces événements...
En quelques mots,
aujourd'hui,
hein,
Didier. Oui, vraiment quelques mots. On peut faire des formats beaucoup plus réduits, beaucoup plus ciblés, avec des gens qui ont des intérêts en commun, ou c'est peut-être des groupes de 10, de 15, où on se retrouve quand même, bon, avec un peu de distanciation sociale quand il le faut, mais avec des centres d'intérêt communs. Donc, comment créer des centres d'intérêt communs pour des gens qui ont besoin de se retrouver de manière festive, mais autour d'une thématique? Ouais. C'est peut-être une des pistes à explorer, à mon avis.
Et dernière question.
Avec beaucoup de valeur ajoutée derrière.
Et dernière question. Alors, c'est super. On fait de la radio. On ne se voit pas, hein. Vous êtes en train de nous dire que ça y est, c'est l'avenir, hein. Mais quand même, c'est pas simple parce que je vais pas vous faire un signe, mais je vais vous dire qu'il nous reste 15 secondes. Comment vous voyez le futur des conférences après la crise, du coup? Où personne ne se verra. Enfin, pas tout à fait de la même façon.
Non, mais je crois qu'il faut faire des événements beaucoup plus ciblés, beaucoup plus réduits, avec ce que je dis, l'intelligence artificielle, proposer beaucoup d'expertise en ligne, parce que les gens recherchent aussi des expertises en ligne. Donc l'expertise, elle demeure tout le temps pour que les gens puissent avoir des réponses très ciblées à la demande. Donc c'est vraiment, à mon avis, la réinvention des conférences à la demande, des produits à la demande, des services, des conseils à la demande, et qu'on peut exploser à travers les réseaux sociaux, à travers les plateformes. Mais ça demande beaucoup de travail en amont, beaucoup de préparation, et ça va être ça la magie, à mon avis.
Merci beaucoup, Didier Acouetté. On vous retrouve la semaine prochaine. Émission réalisée en direct chaque jour avec justement une équipe en confinement et en studio, et à la demande, Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Hugo Violas et moi-même. Je vous dis à demain, 7 milliards, l'école à la radio.